Finalement, les types du fond envoyèrent un signal lumineux, comme ils finissaient toujours par le faire. Les pauvres malheureux, dans leur trou, n'arrêtaient jamais de se casser le cul. Et ils ne les enviaient pas une seconde. Paul resta tranquillement assis, commençant à avoir une idée. Son esprit conscient prit le relais. Le médecin est arrivé et prend les choses en main, et s'empara de l'idée comme d'une lettre que l'on glisse sous une porte. Il se mit à l'examiner. Il fallait la rejeter. N'était-ce pas un faible grognement qui montait des ateliers du fond ? Revint dessus et décida qu'il pouvait en conserver la moitié. Un deuxième signal lumineux monta, plus brillant que le premier. Paul se mit à pianoter avec impatience sur le rebord de la fenêtre. Il commença à taper vers 11 heures. Au début, il n'avança que très lentement. Presque chaque claque de la machine était suivie d'un long silence, s'étirant parfois sur 15 secondes. Équivalent acoustique d'un archipel vu des airs, une série de bosses basses séparées par de vastes étendues de bleu. Peu à peu, les intervalles de silence se mirent à se réduire, tandis que les rafales de frappe s'allongeaient. Musique qui aurait été agréable sur la machine électrique de Paul, mais qui n'était que claquement lourd et agaçant sur la vieille royale. Paul, cependant, ne prêtait pas attention au timbre de la Ducky Daddles de la machine. Il commença à s'échauffer dès le bas de la première page. Au bas de la deuxième, il avait atteint sa vitesse de croisière. Au bout d'un moment, Annie arrêta de passer l'aspirateur et vint se tenir dans l'encadrement de la porte. Elle le regarda sans que Paul se doutât un instant de sa présence. Lui-même ne savait pas qu'il était là. Il avait finalement réussi à s'évader. Il se trouvait dans le cimetière de Little Dunthorpe. Il respirait l'air humide de la nuit, chargé d'odeurs de mousse, de terre et de brume. Il entendit l'horloge du clocher sonner 2 coups, et tous les moindres détails se mirent en place dans le récit. Quand c'était très bon, il avait l'impression de voir à travers le papier. Et en ce moment, il était transparent. Annie le regarda longtemps. Son visage lourd ne souriait pas, ne bougeait pas. Mais on pouvait y lire quelque chose, comme de la satisfaction. Au bout d'un moment, elle partit. Son pas était lourd. Mais Paul ne l'entendit pas non plus. Il travailla jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 8 heures, ce soir-là, il demanda à Annie de l'aider à s'asseoir à nouveau dans le fauteuil roulant. Il écrivit pendant encore 3 heures en dépit de la douleur qui avait commencé à le tarauder vers 10 heures. Annie vint à 11 heures. Il lui demanda encore un quart d'heure. « Non, Paul, ça suffit. Vous êtes blanc comme un linge. » Elle le mit au lit et il s'endormit en 3 minutes. Il ne se réveilla pas de la nuit pour la première fois depuis qu'il était sorti du nuage gris. Et pour la première fois aussi, pas un seul rêve ne vint troubler son repos. Il avait déjà rêvé, éveillé. Paul Sheldon, Le retour de Misery pour Annie Wilkes. Chapitre 1. Pendant quelques instants, Geoffrey Haliburton ne fut pas sûr de l'identité du vieil homme debout à sa porte. Et cela ne tenait pas seulement au fait que la cloche l'avait tiré de l'assoupissement qui le gagnait. Ce qu'il y avait d'irritant dans la vie d'un village, songea-t-il, était qu'il n'y vivait pas suffisamment de gens pour que certains vous fussent parfaitement étrangers. Au lieu de cela, il y avait toute une partie de la population que l'on avait du mal à situer rapidement. Il fallait même parfois se raccrocher à une ressemblance et un air de famille, méthode délicate, bien entendu, car on ne pouvait écarter, même si la chose était rare, les coïncidences d'une bâtardise cachée. On arrivait en général à se tirer de ce genre de situation. Peu importait que l'on eût l'impression de radoter tout en s'efforçant de poursuivre une conversation ordinaire avec une personne dont on aurait dû se rappeler le nom, mais que l'on n'arrivait pas à retrouver. Les choses n'atteignaient des proportions d'embarras réellement astronomiques que lorsque deux visages familiers se présentaient en même temps et que l'on se sentait obligé de faire les présentations. « J'espère que je ne vous dérange pas, monsieur, » dit le visiteur. Il tordait nerveusement entre ses mains une méchante casquette de tissu, et à la lueur de la lampe que Geoffrey tenait à la main, il présentait un visage creusé de rides, jaunâtre, où on lisait une inquiétude terrible, sinon la peur. « C'est juste que je n'ai pas voulu aller voir le docteur Brookings, et que je n'ai pas non plus voulu déranger sa seigneurie. » En tout cas, pas sans vous avoir parlé avant, monsieur, si vous voyez ce que je veux dire. Geoffrey ne voyait rien. Mais tout d'un coup, la lumière se fit sur un autre point. Il savait qui était ce visiteur tardif. La mention du docteur Brookings, le ministre de l'église anglicane de Little Dunthorpe, avait suffi. 3 jours auparavant, le docteur Brookings avait présidé au dernier rite pour misérie, dans le cimetière qui s'étendait derrière le presbytère, et ce bonhomme se trouvait présent, mais discrètement éloigné du gros de l'assistance, de manière à ne pas être remarqué. Il s'appelait Coulter, et il était l'un des sacristains de la paroisse. Pour être brutalement franc, il s'agissait du fossoyeur. « Que puis-je faire pour vous, Coulter ?» demanda Geoffrey. L'homme se mit à parler d'un ton hésitant. « Ce sont les bruits, monsieur. Les bruits dans le cimetière. Sa seigneurie ne connaît pas le repos, monsieur. Non, elle ne le connaît pas, j'en ai peur. Je... » Geoffrey eut l'impression que l'on venait de lui porter un coup de poing à l'estomac. Il eut un hoquet étouffé et sentit une aiguille brûlante lui pénétrer le flanc, à la hauteur du pansement étroitement serré que lui avait fait le docteur Shinebone. Shinebone avait émis un pronostic peu réconfortant, disant à Geoffrey qu'il allait certainement contracter une pneumonie après être resté ainsi toute une nuit dans un fossé sous une pluie glaciale. Mais 3 jours s'étaient écoulés et il n'avait eu ni début de fièvre, ni quinte de toux. Il s'était douté qu'il en serait ainsi. Dieu ne lâche pas aussi facilement les coupables. Il était convaincu que Dieu le laisserait vivre, afin de garder longtemps, très longtemps, le souvenir de la malheureuse qu'il avait aimée. « Est-ce que vous allez bien, monsieur ?» demanda Coulter. « J'ai entendu dire que vous aviez fait une terrible chute l'autre nuit. » Il se tut un instant. « La nuit où elle-même est morte ?»« ça va, » répondit lentement Geoffrey. « Dites-moi, Coulter, ces bruits que vous entendez, vous savez bien que c'est de la pure imagination, non ?» L'homme parut offensé. « De l'imagination » s'exclama-t-il. « Monsieur, un peu plus, vous allez me dire que vous ne croyez pas en Jésus et la vie éternelle. Dites, est-ce que Duncan Fromsley n'a pas vu le vieux Patterson, 2 jours après ses funérailles, brillant comme un feu follet ?» « Ce à quoi doit se résumer cette apparition ?» songea Geoffrey. « Un feu follet alimenté par le contenu de la dernière bouteille ingurgitée par le vieux Patterson. Et est-ce que la moitié de notre pauvre ville n'a pas vu ce vieux moine papiste marcher sur le chemin de Ronde de Highgate Manor ? On a même envoyé 2 dames de la société Psy-Psy de Londres pour le voir. Geoffrey savait qui étaient ces 2 dames auxquelles Coulter faisait allusion. une paire de mégères hystériques qui souffraient probablement des alternances de calme et de tempête qui caractérisent le climat de la ménopause. L'une et l'autre aussi ma boule que possible. Les fantômes sont aussi réels que vous ou moi, poursuivait Coulter le plus sérieusement du monde. Ça ne me gêne pas de penser qu'il en existe, mais ces bruits. Ces bruits ont quelque chose qui glace les sangs. Oui, qui glace les sangs. Et je commence à avoir peur d'aller dans le cimetière. Dire qu'il faut que je creuse une tombe pour le petit bébé des Reutemann demain. Geoffrey murmura une prière intérieure pour se contraindre à la patience. Son envie de vociférer quelque chose pour interrompre le malheureux fossoyeur était presque insurmontable. Il était en train de s'assoupir paisiblement devant son feu, un livre sur les genoux, lorsqu'il avait fallu que ce Coulter vînt le tirer de sa somnolence. Et il était à chaque seconde un peu plus réveillé, à chaque seconde un peu plus tourmenté par le chagrin qui revenait en force à l'idée que sa bien-aimée était morte. Déjà depuis 3 jours dans la tombe, bientôt 1 semaine. Puis 1 mois passerait, 1 an, 10 ans. Le chagrin, pensa-t-il, pouvait se comparer à un rocher sur le rivage de l'océan. Quand on dormait, c'était comme si la marée l'avait découvert, et l'on connaissait un certain soulagement. Lorsqu'on s'éveillait néanmoins, la marée ne tardait pas à baisser et le rocher à réapparaître, masse incrustée de parasites, et d'une réalité indiscutable, chose qui se tiendrait là éternellement, à moins que Dieu ne choisît de la faire disparaître. Et ce fou avait le toupet de venir ici, lui conter des balivernes sur les fantômes. Mais l'homme avait une expression tellement malheureuse que Geoffrey fut capable de se calmer. On aimait beaucoup Miss Misery, sa seigneurie, répondit doucement Geoffrey. Oh oui, monsieur, certainement, acquiesça Coulter avec ferveur. Il confia la garde de sa casquette à sa main gauche seulement, et de la droite tira un mouchoir rouge disproportionné de sa poche. Il souffla bruyamment dedans, les yeux mouillés. Sa disparition a fait de la peine à tout le monde. Geoffrey porta la main à sa chemise et se mit à gratter nerveusement la gaze du lourd pansement qu'elle cachait. « Oh oui, monsieur, vous pouvez le dire à tout le monde. » Le mouchoir étouffait la voix de Coulter. Mais Geoffrey voyait ses yeux. L'homme pleurait, sincèrement ému. Ce qui restait de colère égoïste en lui se dissipa pour se transformer en pitié. C'était une dame si bonne, monsieur. Oh oui, et une grande dame aussi. Et c'est une terrible chose que Dieu nous l'ait enlevée ainsi. Oh oui. Une vraie dame, fit doucement Geoffrey, qui, à son grand plaisir, sentait ses yeux s'embuer et la pluie de ses larmes, prêtes à jaillir comme un orage lors d'une fin d'après-midi d'été. Et parfois, Coulter, reprit-il, lorsque quelqu'un d'aussi remarquable passe de vie à trépas, et en particulier si cette personne nous est chère, nous trouvons insupportable l'idée qu'elle nous ait quittés. Et on peut s'imaginer que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous me suivez ? Oh oui, monsieur, répondit vivement Coulter. Mais ces bruits, monsieur, si vous les entendiez. De quelle sorte de bruit s'agit-il ? Demanda patiemment Geoffrey. Il pensa que le fossoyeur allait lui parler de sons comme le bruit du vent dans les arbres, des sons amplifiés par son imagination, bien entendu. Ou peut-être du froissement d'herbe de quelques blaireaux regagnant le ruisseau de Little Dunthorpe qui passait derrière le cimetière. Il n'était donc guère préparé à entendre ce que souffla Coulter d'une voix étranglée par la terreur. « Des bruits de grattement, monsieur. On dirait qu'elle est encore en vie là-dedans. » et qu'elle cherche à retourner dans le monde des vivants. Oui, Exactement. Quinze minutes plus tard, de nouveau seul, Geoffrey se rapprocha du buffet. Il roulait et tanguait en avançant comme un homme qui traverse le gaillard d'avant d'un bateau en pleine tempête. Il aurait pu croire que la fièvre dont l'avait menacé le docteur Scheinborn, avec un cynisme presque joyeux, frappait enfin et à coups redoublés. Mais ce n'était pas la fièvre qui avait fait fleurir des roses rouges sauvages à ses joues et donné à son front la couleur d'un cierge de cire. Ce n'était pas la fièvre qui lui faisait tellement trembler les mains qu'il faillit laisser tomber la bouteille de brandy lorsqu'il la sortit du buffet. S'il y avait une chance, la plus petite chance, que fût vraie l'idée monstrueuse que Colter venait de faire germer dans son esprit, alors il n'avait pas une seconde à perdre. Mais il sentait que s'il ne prenait pas un coup de fouet, il risquait de s'évanouir. Geoffrey Allison fit alors quelque chose qu'il n'avait jamais encore fait et qu'il ne refit jamais de toute sa vie. Il leva la bouteille et but directement au goulot. Puis, il recula d'un pas et murmura « Il faut aller voir cela par le ciel. Il faut y aller. Et si jamais je fais cette folle sortie pour découvrir en fin de compte qu'il n'y avait là que le délire sorti de l'imagination d'un vieux fossoyeur, je m'offrirai les oreilles de ce bon Colter pour décorer ma chaîne de montre, et peu me chaud qu'il ait aimé misérie ou non. » Il prit le cabriolet, conduisant sous un ciel d'une clarté surnaturelle. La lune, aux trois quarts pleine, ne cessait d'apparaître et de disparaître derrière des bancs de nuages tumultueux comme les vagues d'un récif. Il ne s'était arrêté que pour prendre le premier vêtement venu dans le placard du hall, qui se trouva être une jaquette habillée marron. Les pans volaient derrière lui, tandis qu'il fouettait Mary. La vieille jument n'appréciait pas de devoir trotter à ce rythme. Geoffrey n'appréciait pas la douleur qui devenait plus insistante dans son épaule et son flanc. Mais on ne pouvait rien faire pour pallier les souffrances de l'un comme de l'autre. « Des bruits de grattement, monsieur. On dirait qu'elle est encore en vie là-dedans et qu'elle cherche à retourner dans le monde des vivants. Oui, exactement. » En elle-même, cette exclamation n'aurait pas suffi à le mettre dans un état proche de la terreur. Mais il se souvenait être venu à Calthorpe Manor le lendemain de la mort de Misery. Lui et Yann s'étaient regardés. Et Yann avait voulu sourire, en dépit de ses yeux dans lesquels brillaient des larmes contenues. « Ce serait plus facile, » avait murmuré Yann, « si elle paraissait plus morte. Je sais que cela peut sembler... » « Sans doute, » répondit Geoffrey, essayant lui aussi de sourire. Bosch, l'entrepreneur des pompes funèbres, a-t-il exercé tout son art et... « L'entrepreneur !» hurla presque Yann. Et pour la première fois, Geoffrey avait compris que son ami chancelait au bord de la folie. « Entrepreneur ! Vampire ! Il n'y a pas d'entrepreneur ! Et il n'est pas question qu'il y en ait un qui vienne pomponner mon amour et la transformer en poupée !» Yann, cher ami, vraiment, tu ne dois pas. Geoffrey avait eu un geste comme pour lui tapoter amicalement le dos. Geste qui avait tourné en embrassade. Les deux hommes pleurèrent dans les bras l'un de l'autre comme deux enfants fatigués, tandis que dans une autre pièce, l'enfant de Misery, âgé maintenant de presque un jour et qui attendait encore un nom, se réveillait et se mettait à pleurer. Madame Ramage, dont le brave cœur était aussi brisé que celui de son maître, commença à chanter une berceuse d'une voix chevrotante, pleine de larmes. Sur le moment, profondément inquiet pour l'état de santé mentale de Yann, il s'était moins inquiété des propos de son ami que de la manière dont il les avait tenus. C'était seulement maintenant, alors qu'il fouettait Mary de plus en plus vigoureusement, en dépit de ses propres souffrances, fonçant vers le cimetière de Little Dunthorpe, que ces mots étranges lui revenaient pour le hanter, à la lumière des propres paroles de Colter. Si elle paraissait plus morte, si elle paraissait plus morte, mon pauvre ami, Mais ce n'était pas tout. Tard dans l'après-midi, ce même jour, et alors que les premiers habitants du village gravissaient la colline de Colthorpe Manor pour venir présenter leurs condoléances à leur seigneur en deuil, Shinebone était revenu. Il paraissait épuisé, mais pas très bien lui-même. Pas étonnant de la part d'un homme qui disait avoir serré la main de Wellington lorsqu'il était enfant. Lui-même, non pas Wellington. Geoffrey pensait que l'histoire de Wellington était une invention. Mais le vieux Shiny, comme Yann et lui l'appelaient lorsqu'ils étaient gamins, avait soigné toutes les maladies d'enfants de Geoffrey et déjà à l'époque, il lui paraissait très très âgé. Certes, pour un enfant, quiconque a plus de 25 ans est déjà un ancien, mais Shiny devait avoir bien 75 ans à l'heure actuelle. Il était vieux, et il venait de passer 24 heures terribles, frénétiques. Un homme âgé et fatigué n'aurait-il pas pu commettre une erreur? Une terrible, une effroyable erreur? C'était cette pensée, plus que tout le reste, qui l'avait poussé dans son état à affronter cette nuit de froid et de vent, à courir sous une lune qui bégayait d'incertaines apparitions entre les nuages. Aurait-il pu commettre une telle erreur? Une partie de lui-même, partie pusillanime et couarde, aurait presque préféré perdre Misérie pour toujours qu'envisager les conséquences inévitables d'une telle erreur. Presque préféré nier que ce fût possible. Mais lorsque Shiny était arrivé, Geoffrey s'était trouvé assis à côté de Yann, qui évoquait à mots hachés et dans des phrases presque incohérentes comment ils avaient tous les deux tiré Misérie des griffes du vicomte de Leroux, le Français fou, lequel la tenait enfermée dans une oubliette, puis comment il s'était échappé dans une charrette de foin, et comment, à un moment critique, Misérie avait détourné l'attention des gardes du vicomte en faisant sortir une jambe superbe et dénudée du foin et en l'agitant délicatement. Geoffrey se trouvait lui-même sous le coup de ses propres souvenirs de l'aventure et sous le coup encore plus grand de son chagrin. Il maudissait maintenant ce chagrin car pour lui, comme certainement pour Yann, c'est à peine s'il avait remarqué le vieux médecin. Celui-ci ne lui avait-il pas paru étrangement distant, étrangement préoccupé? Était-ce seulement de la fatigue ou y avait-il autre chose? Un vague soupçon. Non, sûrement, protesta une voix en lui-même d'un ton peu convaincu. Le cabriolet volait sur la côte qui menait au manoir. Celui-ci était sombre, mais ah bien. Il aperçut encore une lumière dans le cottage de Madame Ramage. Hu, Marie! Cria-t-il en faisant claquer son fouet, ce qui lui arracha une grimace. Encore un petit effort et tu pourras te reposer, ma fille. Ce n'est certainement pas ce que tu imagines. Mais le vieux Shiny n'avait examiné l'épaule luxée et les côtes cassées de Geoffrey que superficiellement, et c'est à peine s'il avait adressé quelques mots à Yann, en dépit du profond chagrin du jeune homme et de ses gémissements incohérents et fréquents. Non. Après une visite qui lui paraissait maintenant n'avoir duré que le strict nécessaire exigé par les conventions sociales, Shinebone avait demandé d'un ton calme. « Est-elle ?» Oui, dans le salon, avait réussi à répondre Yann. « Ma pauvre Misérie chérie, repose dans le salon. Embrassez-la pour moi, Shiny, et dites-lui que je ne tarderai pas à la rejoindre. » Sur ces mots, Yann avait de nouveau éclaté en sanglots. Mais après avoir marmonné ses condoléances, le médecin était passé dans le salon. Geoffrey avait maintenant l'impression de se souvenir que le vieux toubib y était resté plutôt longtemps. Mais sa mémoire le trahissait peut-être sur ce point. Lorsqu'il en était sorti, cependant, il avait l'air presque joyeux. Et de ce souvenir-ci, il était sûr. Son expression était trop déplacée dans un endroit où tout n'était que larmes et chagrin, une pièce dans laquelle Madame Ramage avait déjà accroché les rideaux funéraires. Geoffrey avait suivi le médecin à qui il avait adressé la parole dans la cuisine. Il espérait, avait-il dit, que le docteur ne manquerait pas de prescrire un somnifère à Yann qui paraissait aller vraiment très mal. Le vieux Shiny lui avait cependant paru complètement distrait. « Ce n'est pas du tout comme pour Miss Evelyn Hyde », avait-il murmuré. « De cela, je me suis convaincu. » Et il était retourné jusqu'à sa calèche, sans même répondre à la question de Geoffrey. Ce dernier était revenu à l'intérieur, oubliant déjà l'étrange remarque du médecin, mais l'attribuant sans s'y attarder davantage à son grand âge, à la fatigue et à son propre chagrin. Ses pensées étaient revenues à Yann. Elle décida que, puisqu'il ne pouvait disposer d'un somnifère, il lui ferait ingurgiter de force du whisky jusqu'à ce que son malheureux ami perdît connaissance. Remarque oubliée, rejetée, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas tout, comme pour Miss Evelyn Hyde. De cela, je me suis convaincu. Mais de quoi s'était-il convaincu? Geoffrey l'ignorait. Mais il avait bien l'intention de le découvrir, quel que soit le coût de cette enquête pour sa santé mentale, et ce coût, reconnaissait-il, risquait d'être élevé. Madame Ramage n'était pas encore couchée lorsque Geoffrey cogna à la porte du cottage, alors que d'ordinaire, elle aurait déjà été au lit depuis 2 heures. Depuis la mort de Misery, la brave femme retardait chaque soir un peu plus le moment de se retirer. Si elle était incapable de ne pas se tourner dans tous les sens dans son lit, au moins pouvait-elle repousser le moment où commençait son calvaire nocturne. Bien qu'elle fût la femme la plus pondérée et la plus pratique du monde, les coups précipités frappés à sa porte la firent sursauter et lui arrachèrent un petit cri. Elle se brûla même la main avec le lait chaud qu'elle versait dans son thé. Depuis peu, elle paraissait en permanence sur les nerfs, toujours sur le point de se mettre à crier. Il ne s'agissait pas là de chagrin, même si celui-ci l'accablait presque complètement. Mais d'un étrange sentiment, une sorte de tension grondante qu'elle ne se souvenait pas avoir jamais éprouvée. Il lui semblait par moments que les pensées qu'elle aurait mieux valu ne pas avoir l'encerclaient, juste hors de portée de son esprit fatigué et si amèrement triste. « Qui frappe donc à 10 heures ? » s'écria-t-elle de derrière la porte. « Qui que vous soyez, merci. Je me suis brûlé. » « C'est Geoffrey, Madame Ramage. Geoffrey Haliburton. Ouvrez, pour l'amour du ciel !» Madame Ramage resta bouche bée, et elle avait déjà parcouru la moitié du chemin vers la porte lorsqu'elle se souvint qu'elle était en chemise et bonnet de nuit. Jamais elle n'avait entendu un timbre pareil dans la voix de Geoffrey, et elle était presque sur le point de croire que son ouïe la trahissait. S'il y avait dans le royaume britannique cœur encore plus intrépide que celui de son lord bien-aimé, c'était bien celui de Geoffrey. Et pourtant, sa voix tremblait, comme celle d'une femme au bord de la crise d'hystérie. « Une minute, monsieur Geoffrey. Je suis à moitié nu. Le diable m'emporte, même si vous êtes toute nue. Madame Ramage, ouvrez cette porte au nom de Jésus. » Elle hésita seulement une seconde, puis alla vers la porte qu'elle déverrouilla et ouvrit. L'aspect de Geoffrey fit plus que la surprendre, et une fois de plus, elle entendit le grondement d'orage lointain de pensées confuses au fond de sa tête. Geoffrey se tenait sur le seuil de la porte dans une étrange position inclinée, comme si sa colonne vertébrale avait été déformée pour avoir porté un sac de colporteur pendant des années. De la main droite, il se pressait le bras et le côté gauche. Il avait les cheveux en broussailles, et ses yeux bruns foncés brillaient dans son visage blanc comme un linge. Sa tenue était tout à fait surprenante de la part de quelqu'un d'aussi soigneux, un dandy presque, que l'était d'habitude Geoffrey Haliburton. Il portait une vieille jaquette élimée à la ceinture pendante, une chemise blanche sans cravate, col ouvert, et une paire de grossiers pantalons de serge que l'on aurait vu plutôt sur les jambes de quelque jardinier itinérant que sur celles de l'homme le plus riche de Little Dunthorpe. En outre, il avait aux pieds une paire de pantoufles éculées. Madame Ramage elle-même, loin d'être habillée pour un bal à la cour, avec sa longue chemise de nuit blanche et son bonnet dont les rubans pendaient, tire-bouchonnés de part et d'autre de son visage comme les glands d'un abat-jour, écarquillait des yeux à l'expression de plus en plus inquiète en le regardant. Il s'était rouvert les plaies à la hauteur des côtes qu'il s'était cassées lors de son accident de cheval 3 nuits auparavant. Cela semblait évident. Mais ce n'était pas seulement la douleur qui faisait étinceler ses yeux au milieu de ce visage de craie. C'était la terreur. Une terreur qu'il avait toutes les peines du monde à contrôler. « Monsieur Geoffrey, qu'est-ce ?»« Pas de questions !» répondit-il d'une voix rauque. « Pas encore. » Pas avant d'avoir répondu à la mienne. « Quelle question ?» Elle était gagnée par la peur maintenant. Et sa main gauche vint se contracter en un point serré sur son opulente poitrine. « Est-ce que le nom de Miss Evelyn Hyde signifie quelque chose pour vous ?»